Salut à tous et bienvenue donc dans une nouvelle interview de Femmes Inspirantes. On arrive bientôt à la fin de ce projet de 50 interviews et aujourd'hui, je suis très contente de vous présenter Lilou Massé, que j'ai rencontrée il y a à peu près 10 ans et qui en fait est quand même à l'origine de tout ce projet de Femmes Inspirantes puisque c'est vraiment, enfin, tu es vraiment quelqu'un qui m'a inspirée au tout départ dans mon projet. Donc, tu seras présente dans le deuxième livre, dans le deuxième tome d'interviews de femmes inspirantes qui sortira très bientôt, j'espère cet été 2022. Et bonjour Lilou.
Bonjour Lucie, ravie de te
Ouais.
revoir en ligne.
Donc Lilou, est-ce que tu peux nous présenter un petit bout pour qu'on ait un petit aperçu de ton parcours professionnel, enfin avant ton parcours professionnel, d'où tu viens? Où est-ce que tu as grandi? Dans quel type de famille? Déjà, tu as des éléments assez particuliers à nous partager là-dessus. Quelles étaient les études que tu as faites? Et ensuite, on parlera de ton projet complètement inspirant et abracadabrant. Raconte-nous un petit peu qui tu es.
Je suis fille de restaurateur, donc qui avait un restaurant français à Santa Barbara, donc je suis née en Californie en 77. Et après, on a habité entre les États-Unis et la France pendant toute mon enfance, jusqu'à l'âge de 8 ans, on s'est posé à Nantes. Donc j'ai vraiment grandi à Nantes, avec des beaux grands souvenirs de Nantes. Et puis j'ai fait mes études supérieures à La Rochelle, dans une ESC, l'ESC de La Rochelle, sur 4 ans, puisque c'était un bachelor de commerce et de gestion, avec 2 ans à l'étranger. En fait, c'est ça qui m'intéressait surtout dans l'histoire, c'était la relation aux gens et le fait de partir à l'étranger comme ça 2 années et d'avoir une expérience professionnelle de plus d'un an, c'était 1 an et demi même. Donc ça m'a plu et même si le diplôme à l'époque n'était pas reconnu, je me suis dit c'est pour moi, il y a un truc là-dedans qui me convient parfaitement et en effet, c'était génial. Donc j'ai ce background-là. Après, je suis partie direct après mes études aux États-Unis parce que je ne trouvais pas d'emploi en France et de nouveau aux États-Unis, je ne trouvais pas d'emploi. Donc là, j'ai dit, c'est bien beau de fuir la France, mais au final, il y a peut-être quelque chose chez moi à regarder, à revoir, à explorer. Et c'est là où je suis tombée un peu les deux pieds dans le développement personnel et puis très rapidement spirituel aussi.
Tu voulais faire quoi quand tu étais petite? Tu avais des
Je faire des dessins tout le temps.
dessins?
Non, mais j'adorais les couleurs. J'avais jamais assez de crayons dans les mains. Et j'avais pas vraiment de, je sais pas, j'aimais faire des spectacles, j'aimais colorier, je me souviens pas d'avoir un rêve précis pour ce que je voulais faire en tous les cas. Mais j'aimais la créativité, ouais.
Avant de te lancer dans l'aventure de la télé de Lilou, tu as fait plusieurs petits jobs ou jobs, je ne sais pas comment on peut les catégoriser. Qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce qui te motivait dans ces trucs-là?
J'ai commencé par déjà trouver un job alimentaire en arrivant à en Floride. Donc après avec mon diplôme en poche, mais comme je trouvais pas le job, j'ai commencé caissière, après serveuse, je savais faire. Et puis là, il s'est passé des trucs justement dans ce restaurant cubain à Fort Lauderdale où j'étais serveuse, c'est que j'ai fait 3 grandes rencontres. Daniel Moore qui est devenu mon ami, grand grand ami, avec qui avec qui on faisait plein plein de choses et qui m'a apporté beaucoup d'amour, de réconfort, d'écoute, de tout ça, et on se l'a apporté réciproquement. C'était un amour inconditionnel très puissant. J'ai rencontré Hank Andrews, qui est devenu un mentor, qui m'a accompagnée après lors de certains déboires aussi, et qui m'a ouvert à plein de choses différentes avec une énorme connaissance, un ancien avocat, un homme beaucoup, beaucoup plus âgé que moi, mais qui est devenu pareil, un grand ami, et qui m'a aidé après à bouger vers Chicago, donc qui m'a ouvert sur d'autres dimensions des États-Unis que la Floride. Et puis j'ai rencontré un autre homme qui a été mon avocat lors d'une période qui était difficile où j'ai eu un procès très jeune à 23 ans, puisque j'avais fait un site internet commerce e-commerce, donc je faisais des sites hein, depuis 2000, donc c'était tout nouveau encore. J'avais des programmateurs et là j'ai eu un ils n'étaient pas contents du travail et à l'américaine hein, j'ai eu la totale version américaine show. Avec un procès qui a duré pendant plusieurs années, mais qui finalement était plutôt des vieilles casseroles que je trimballais, mais qui en effet étaient des fantômes qui me hantaient aussi et qui m'ont retenu de faire plus pendant des années. Genre, certainement après, plus tard, quand je parlerai d'éveil, mais ça a été un moment clé. Et puis après, bah, j'étais à mon compte hein, pendant toutes ces années au final. C'est-à-dire que j'ai toujours été à mon compte. J'aime cette liberté-là, j'aime travailler avec des freelances, j'aime travailler avec des personnes extérieures. et créer la bonne équipe, en fait. C'est toujours été mon mode un peu de fonctionnement par rapport au projet. Et la télé de Lilou est venue naturellement après avoir commencé les stages de développement personnel en 2000. Et comme je ne trouvais pas de job, et c'est là où il y a eu quelques révélations, et c'est là où après j'ai rencontré deux nanas avec qui j'ai démarré le défi des 100 jours aux États-Unis. Et c'est comme ça que j'ai démarré en 2006 sur YouTube. Et puis voilà, je suis encore sur YouTube.
Donc aujourd'hui, il y a plein de projets en parallèle. Tu écris des livres, tu as le défi des 100 jours, les cahiers d'exercice, les vidéos sur YouTube. On va décortiquer et parler un petit peu de tout ça. Avant de démarrer, peut-être juste développement personnel. Qu'est-ce que tu appelles développement personnel? Qu'est-ce que toi, tu mets derrière ce mot-là? Parce qu'on peut voir que différentes personnes ont différentes définitions aussi de ce mot-là. Ne serait-ce qu'entre les femmes et les hommes, je trouve qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Qu'est-ce que toi, tu entends par développement personnel?
Bah, c'est plus que simplement du développement personnel. C'est vrai que j'ai longtemps pas osé complètement l'affirmer, mais ça a été et c'est vraiment plus du développement spirituel. Donc ça m'a amené, ça a démarré par, on va dire, libérer certains schémas, certaines croyances. Ça, j'inclus là-dedans les mémoires familiales, j'inclus là-dedans aussi après un travail énergétique qui finalement à travers nos traumatismes et nos blessures nous limite dans notre champ d'action. C'est-à-dire que c'est une chose de travailler en développement personnel sur une blessure, et c'en est une autre encore de libérer l'énergie autour de ça. Donc en fait c'est très très global et donc c'est plus du développement personnel et spirituel, c'est plus une évolution. Moi je le vois comme un chemin d'évolution sur cette terre, et qu'on est à l'école et qu'on a un certain karma chacun d'entre nous avec des leçons, et le but c'est de s'en libérer pour se sentir bien et libérer nos peurs surtout. Moi je pense que j'ai un karma qui est bien fourni en peur, donc et je vois que ça m'a pas empêché quand même d'avancer et de faire plein de belles choses, donc c'est assez encourageant je trouve que de se dire bah ok, on peut partir avec un espèce de gros truc gérer, et puis au final ça peut être de plus en plus lumineux. Donc c'est ça qui m'intéresse, si tu veux, c'est que le chemin devienne de plus en plus lumineux, libérateur, qu'on se sente bien, qu'on se sente à sa place, qu'on se sente heureux, qu'il y ait une joie de vivre naturelle qui rayonne, et que les choses se mettent en place, tu vois, avec de la fluidité, et puis aussi qu'on traverse les défis avec un petit peu plus de recul et d'outils pour mieux les aborder, mieux les transmuter.
Ouais. Donc depuis 2006, tu nous partages tout ton parcours sur YouTube. Au début, c'était quoi? C'était plutôt des interviews, c'est ça?
Au début, c'était plus des vidéoblogs pour en tant que participatrice du défi des 100 jours. C'est-à-dire pendant 100 jours, on émet une intention sur 100 jours. Donc je faisais une vidéo en début en disant voilà mon intention sur 100 jours sur plus de 3 mois en utilisant telle et telle pratique, méditation, marche, lecture inspirante, sport ou autre. Et après, bah, la vie se transforme, il y a des défis qui viennent à nous en fonction de ces intentions. Et donc c'était des vidéos blog beaucoup plus en 2006. Je cherchais une plateforme, avant même d'ailleurs que YouTube soit racheté par Google, je cherchais une plateforme sur laquelle je pouvais stocker ces fameuses vidéos. Ça n'existait pas, hein, il n'y avait rien d'autre. J'ai bien fait de parler sur YouTube parce que c'est vrai que c'est devenu un truc énorme depuis.
Oui, à l'époque, il y avait un peu Dailymotion peut-être encore.
Même pas. Je ne sais même pas si... En tout cas, j'ai commencé à utiliser Dailymotion, je crois, plus en 2009, quand je suis venue en France, mais aux États-Unis, parce que j'étais aux États-Unis à cette époque, tu vois, c'était vraiment YouTube. Hein. Et puis, ouais. J'hébergeais même les toutes premières vidéos blog du défi des 100 jours sur mon propre serveur et site au départ, que j'avais créé. Mais c'était une galère. Donc, quand j'ai vu une telle plateforme, j'ai dit « youpi ». C'était plutôt cool. Hein.
Donc, tu partages en fait depuis 2006 tout ton parcours personnel, tout ce que tu intègres à chaque fois que tu fais des stages, à chaque fois que tu expérimentes des pratiques pendant 100 jours. Tout ça, on peut le voir, on peut te suivre à travers tous tes vlogs. Donc déjà, ça, c'est passionnant. Et moi, je partage ton chemin avec plusieurs amis. On en discute, on dit, tu vois, elle a fait ça, qu'est-ce qu'on pense, machin. Enfin, ça nourrit aussi beaucoup de réflexions sur nos propres chemins. Et c'est, je pense, dans cette intention-là que tu le faisais.
Ouais.
Tu fais toujours, certainement.
Ouais.
Ouais, parle-nous un peu plus du défi des 100 jours. Comment c'est né? Comment ça a évolué? Parce qu'il y a eu plein de transformations.
Le défi des 100 jours, il est né d'un stage auquel j'ai participé. aux États-Unis. Donc, ce tout premier stage qui est en 2000, janvier 2000, qui m'a créé une énorme ouverture. Et donc, c'est là où on s'est dit, ouais, mais c'est OK, tous ces stages et ces livres qu'on peut lire, mais pour qu'il y ait un réel changement et un impact dans la vie, on doit le pratiquer pendant un certain temps. Et on a lu qu'au bout de 90 jours, ça faisait partie de son style de vie. Ça, on l'intégrait dans son style de vie, ça faisait partie de son quotidien, ça nous faisait du bien, on en avait envie. Enfin, c'était quelque chose de finalement d'assez simple. Après une période un petit peu où c'est vrai que c'est une pratique, donc ça demande discipline et rigueur quelque part. Mais ça, je l'avais. Donc, il y a petit à petit, chaque saison, on va dire, chaque défi des 100 jours, chaque 100 jours, il y a des nouvelles choses qui s'intègrent dans nos vies. Et chaque défi des 100 jours a son thème. Et donc, ça dure 100 jours et il y a eu des défis des 100 jours. Il y en a eu 10 de publiés aux éditions Très Daniel. Et certains sont sur l'intuition, d'autres l'alimentation, l'argent, libérer son rapport à l'argent, éveiller son féminin. Là, le dernier sur le sport et le cerveau. Donc, c'est vraiment très divers. Au fur et à mesure de mes rencontres, des interviews, de ce qui se passe aussi dans ma vie, c'est pas quelque chose de prémédité. C'est pas quelque chose de planifié comme on aurait pu me faire croire en école de commerce. C'est vraiment quelque chose de très fluide. J'aime fonctionner comme ça et avancer comme ça. Donc, voilà. Les thèmes viennent au fur et à mesure.
Moi, donc, j'en ai fait plusieurs, des défis des 100 jours depuis 2012. Je pense, de mémoire, j'en ai avoir fait genre 13 saisons de 100 jours chacune.
Hey.
Moi, je trouve ça génial. Et puis, c'est vraiment tout simple, en fait. Tu poses une intention, tu appliques quelque chose pendant 100 jours, tu fais un bilan, tu en fais un de temps en temps, ou alors juste à la fin, ça dépend, c'est assez libre et c'est chacun qui fait. Mais je trouve ça génial de voir toutes les...
Tous les jours, c'est un exercice, ouais.
Ouais, de voir toute l'énergie qui se met en place dans ce genre de bilan. Et puis toute la communauté qu'il y a aussi avec, parce qu'il y a toute la communauté des co-créateurs qu'on peut... Alors, je ne sais pas si tu as encore le site...
Disons que le site, non, mais c'est devenu au fur et à mesure, parce que ça évolue. Il y a le site, mais ça va être plus un site qui va ensuite aller vers les différents liens, donc qui va être refait bientôt. Là, pour l'instant, c'est des groupes Telegram et des groupes Facebook selon les thèmes des défis et les gens se retrouvent parce qu'on démarre un défi des 100 jours un samedi. Et comme ça fait des vagues tous les samedis de personnes qui le font ensemble. Et c'est motivant, en effet. C'est ça la grande source, on va dire, c'est l'énorme bonus, l'énorme cerise sur le gâteau, c'est la communauté. Ouais. Parce que c'est ça la force qui fait que ça nous propulse, on le fait ensemble, on se tire vers le haut et puis on rentre dans un truc... beaucoup plus positif et inspirant que juste par nous-mêmes, c'est normal. Mais c'est vrai que la communauté des co-créateurs est une très très belle communauté, ouais.
Ouais,
j'aime profondément et c'est quelque chose de beau, ouais.
Oui, j'ai rarement vu des communautés aussi engagées. Alors là, en ce moment, moi je pratique le Kundalini Yoga, donc c'est peut-être quelque chose qui peut ressembler un peu à ça, mais il y a aussi ce truc de justement, on a des rituels, on choisit chacun sa méditation pour travailler l'abondance, pour travailler, il y a plein de méditations pour travailler un peu tous les éléments d'une vie, et on le pratique soit pendant 40 jours, pendant 90 jours ou pendant 120 jours. Donc on choisit notre. Voilà, et les gens sont aussi très engagés.
C'est l'engagement qui fait ça, ouais.
Ouais. Et bon, je trouve que ça a un bénéfice extraordinaire et. Donc, moi, je recommande le défi des 100 jours à toutes les personnes qui nous suivent. Allez le tester au moins une fois. C'est vraiment, vraiment chouette. Donc, tu as créé le défi des 100 jours. Tu l'as alimenté depuis toutes ces années, qui est énorme.
Puis pratiqué.
Pratiqué, parce que c'est bien joli et bien facile de créer un truc et d'avoir une idée. L'alimenter pendant plus de 10 ans, c'est un énorme défi, un énorme challenge. Donc, aussi, bravo pour ça.
Merci.
Tu as amené aussi plein d'énergie nouvelle avec tous les autres co-auteurs des cahiers que tu as réalisés, notamment un avec ton papa, c'est ça?
Mais c'est même plus de 10 ans, si on regarde bien, parce que là, c'est vrai que c'est même plus de 10 ans, parce que le défi, on est en 2022, tu vois, ça a démarré, mon premier était en 2005, en ligne en 2006. Donc, tu vois, c'est...
Bientôt faire 20 ans même.
Ouais. Ouais. Mais c'est mon socle, je le dis souvent, c'est comme un socle, une fondation sur laquelle il y a eu tellement de choses que j'ai pu accomplir grâce à ça, et ça a été tellement puissant. C'est tellement puissant de dire de faire ces actes conscients, tu vois, de dire allez, voilà mon intention, ce que je souhaite, et puis de sentir ce soutien et d'y aller, et de ouais, c'est
Tu veux nous
Ça
donner
s'est pas fait tout seul, hein, parce qu'il y a eu des hauts et des bas, mais ça a été un engagement. Mais jamais je l'ai senti comme quelque chose de lourd, tu vois, et de dense, et je dois le faire, et oh là là. Non, ça a été comme un moteur, tu vois, ça a été comme une source d'énergie qui m'a alimenté d'autres choses.
Tu as des exemples d'un défi qui t'a marqué particulièrement ou celui que tu es en train de faire en ce moment, par exemple?
Bah là, le défi sport, il est bien costaud, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de challenges, de défis. Là, on rentre dans la partie douche froide, en plus des sessions de sport, etc., à travers l'application et tout, il y a des défis de mémoire, de ci, de ça, de bracelet du positif. Là, on est sur une douche froide de 15 secondes pour finir les douches froides de 15 secondes pour aller au-delà de notre zone de confort. Mais après, on arrive sur l'hygiène de vie, donc en plein été. Avec toute la partie sans alcool, pour ceux qui fument sans cigarette, sans dessert, sans soda, etc. Bien sûr, en ayant plein d'autres plaisirs de la vie, mais ça va venir aussi chercher d'autres groupes de personnes. Donc, il est quand même bien challengeant celui-là. Et en même temps, au cœur de ce défi, tu vois, j'ai fait un jeûne d'une semaine où j'ai mis de côté les exercices, mais on faisait de la randonnée tous les matins. Donc, très, très contente. C'est venu comme ça. Je devais le faire. Quelques mois auparavant, puis c'est tombé là, et très bien, j'ai accueilli, j'ai adoré cette expérience. Donc, c'est. Ouais, celui-là, c'est vrai que celui-ci a quelque chose de spécial, mais tous, hein, le tout premier, forcément, Vie extraordinaire, qui est très pure dans sa forme, où on pose l'intention, il y a un petit exercice et les pratiques, on se concentre là-dessus, je trouve qu'il est parfait pour des gros changements de vie. Donc, en effet, j'ai vécu des gros changements de vie avec celui-là. Et mission de vie aussi, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé, celui sur trouver sa mission de vie. M'a beaucoup plu à le faire parce que c'est à le faire, là, encore plus qu'à le vivre, puisque je vis ma mission de vie. Mais j'étais enceinte et mon éditrice était enceinte. Donc, on l'a fait à quatre.
Donc pour accompagner ces défis, tu as les cahiers d'exercices, donc qui sont des jolis bouquins quand même, c'est du costaud. T'en as là sous la main? Non, peut-être pas, je t'ai pas.
Voilà, non, il est sur la table là-bas. Non, attends, je regarde. Non, pas là. Ah si, j'en ai un, bah tiens, non, c'est sport. Il est là.
Ouais, voilà. Donc ça, c'est des beaux cahiers d'exercices que maintenant on peut retrouver en librairie en plus.
Oui. Ouais, depuis 2015. Ouais, avec les éditions Très Daniel partout. Ouais.
Et t'as les cartes aussi qui vont avec?
Alors là, les cartes sport, c'est des cartes holographiques. Elles sont pas encore arrivées avec ces histoires de pénurie de papier et tout, mais elles devraient pas trop tarder. Il y
Ok.
a une application qui va avec et du coaching tous les jours pour ceux qui le souhaitent.
Ok, cool. Donc, tu as fait plusieurs jeux de cartes qui vont avec le défi.
Bah, chaque défi a, pas tous, mais presque tous ont leurs cartes qui vont avec. Ouais.
Ok.
Certaines fois, c'est des affirmations, d'autres des citations. La petite carte du matin qu'on va attirer. Bon, maintenant, on voit énormément d'oracles de partout. Donc, tout le monde a plein de jeux d'oracles différents et utilise en fonction de ça. Mais c'était. Mais c'est pas c'était, c'est toujours très utile. Après, il a évolué. Les petites cartes ont évolué au fur et à mesure du temps aussi. Mais des fois, c'est la simplicité qui fait l'efficacité. Tu vois, des fois, on essaye de faire des trucs, des gros projets dans lesquels on se lance ou avec des jeux de cartes qui sont compliqués. Mais finalement, un message d'inspiration qui passe et qu'on va retenir dans la journée, ça va loin.
Donc après ces défis des 100 jours, moi je trouve que les interviews, c'est ta signature, c'est ta petite touche à toi, enfin c'est ta grosse touche à toi. Les interviews, donc depuis 2006, c'est
Ouais.
ça?
Non, depuis, oui, 2006, oui, c'est vrai. Oui, en anglais, ouais.
Tu fais des interviews sur YouTube, donc d'abord en anglais, ensuite tu en as fait en français. Alors raconte-nous un peu plus, qui c'est que tu interviews, comment tu les choisis, pourquoi tu les interviews, comment ça marche?
Ben, j'ai interviewé en premier, c'était mon propre coach aux États-Unis, à Chicago, que j'avais envie de le faire. J'étais inspirée parce que Oprah Winfrey, sans trop le savoir, mais j'ai déménagé bon, c'est là où j'habite maintenant, à Chicago à l'époque, en octobre 2006. Et le fait de la rencontrer, de la voir parler de son métier et tout, ça, sans plus la connaître que ça, sans connaître tout son parcours, etc., ça a créé comme un espèce de truc. C'était un détonateur, enfin, je sais pas, ça a allumé une flamme en moi et d'un seul coup, j'ai eu envie d'interviewer et de mettre ça en ligne. Donc, ça a démarré avec mon entourage, on va dire, en tout cas les gens qui m'inspiraient autour de moi, mais il y en avait déjà quelques-uns puisque le défi des 100 jours a été créé avec deux auteurs. Les deux nanas avec qui, Sandy Grayson et Laura Doxer, avec qui j'ai créé le défi aux États-Unis, c'était elles-mêmes des auteurs. Donc, il y avait déjà de quoi faire autour. Donc, j'ai démarré ça en les interviewant, en demandant demandant des conseils, en m'intéressant à leur parcours, quel était le moment où ils ont, on va dire, vécu un point de bascule, où leur vie, d'un seul coup, où ils ont eu un éveil, où leur cœur s'est réouvert à la vie, où il y a eu quelque chose vraiment où ils ont commencé à donner du sens à leur vie. Donc ça, c'est... Ça, j'ai été chercher ça chez de nombreuses personnes, mais les interviews sont venues au fur et à mesure. En 2009, je faisais mes premières interviews, je crois, en France. Et après 2010, 2011, 2011, c'est là où vraiment je commence à faire cette tournée d'interviews à travers les États-Unis, où là, ça devient très productif, puisque je ne sais pas combien d'interviews je faisais par jour, mais c'était une personne qui me référençait à une autre, et une autre, et une autre. Et là, j'étais dans un espèce de vivier, parce que j'étais aux États-Unis. Donc, il y avait plein, plein d'auteurs personnels, spirituels, beaucoup spirituels. Et donc, c'est une grande partie de mes interviews du début qui viennent de là, avec des auteurs très connus américains. Certains sont décédés, mais pas qu'américains. Hein, ça peut être japonais, comme Masaru Emoto ou Joe Dispenza, que j'ai rencontré en 2011. Ou des interviews sur l'âme, sur l'unité de conscience, sur le chamanisme, sur les dauphins, sur le féminin sacré, tout ça. Déjà en 2011, c'était des sujets que j'explorais finalement. Et au fur et à mesure, je me suis pas lassée de les explorer parce que ça va à l'infini dans les connaissances, dans ce qu'on a à dire. Mais en même temps, c'est des interviews qui sont intemporelles, qui sont, on les réécoute aujourd'hui, je trouve, et elles sont encore au goût du jour, voire certaines même donnent de l'info sur ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est ça que j'adore, c'est cette intemporalité. Et puis, les intervenants que j'ai pu choisir en écoutant mon intuition aussi, mon cœur et tout, et avec leurs conseils d'un à l'autre, sont révélés des auteurs d'une grande qualité, quoi. D'une grande qualité, intégrité, chose que je cherche. Donc, c'est pas forcément des auteurs, parce que ça a été aussi des entrepreneurs, ça a été aussi des personnes connues, ça a été aussi des chanteurs, ça a été aussi. Mais ce qui m'intéresse profondément, c'est quand quelqu'un a écrit un livre, a fait cette démarche, a vécu ses états de conscience et s'est éveillé, et ensuite peut en parler vraiment comme une expérience vécue, pas que mentale, parce que ça m'intéresse pas. Ça apporte rien, je trouve, une discussion intellectuelle autour du sujet. Donc, c'est pas ce que mes interviews sont, c'est plus un échange. C'est des personnes qui ont vécu, on va dire, pour la plupart, des éveils, un éveil ou plusieurs, et qui se rappellent de ce qu'il y a au-delà de cette vie-ci.
Tu disais que tu étais très productive. À un moment donné, je me souviens, tu publiais une interview par jour.
Ouais.
Non, tu n'es plus à ce rythme-là, je pense, aujourd'hui.
Non, plus une par semaine ou deux. Ouais. Plus, en général, deux interviews plus un vidéoblog ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas vraiment de... Mais la régularité, c'est vrai, a été une des clés tout au long de ces années. C'est que j'ai toujours été là. Je pense que les co-créateurs savent que je suis là et qu'ils peuvent compter sur moi, encore plus pendant les moments durs, au confinement ou à d'autres passages, où vraiment là, il y a quelque chose en moi qui redouble d'énergie, de créativité, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme ça qu'au confinement, il y avait les 7 défis des 100 jours, qu'il y en avait déjà 7 de publiés, là on est à 10, il y en avait 7, donc 7 couleurs différentes, et c'est devenu le défi arc-en-ciel qui a été offert toutes les semaines. J'ai fait un patchwork de tous les différents défis que j'ai offerts en ligne à télécharger aux personnes. Et ça, j'ai eu énormément de retours positifs par rapport à cette période. Ça a aidé. Et puis, c'est devenu en version papier, dans le coût payante. Enfin, les défis sont entre 25 et 27 euros. Mais il a été en version payante après l'année suivante. Et mon éditeur a accepté parce que je devais aussi convaincre. Bon. Pas trop convaincre parce que j'ai un éditeur qui me suit, mais je devais quand même un petit peu lui dire voilà, on va l'offrir, le défi des 100 jours va être offert, et puis après il sera en version payante papier, mais ça avait énormément de sens, puis c'est devenu le best-of au final des défis, le moyen de découvrir plein de défis différents. Donc c'est comme ça, je trouve ça intéressant, cette manière de fonctionner. Ça m'a toujours servi et ça fonctionne pour moi, parce que il y a quelque chose on est au contact de la vie et les idées qui viennent, tu vois, et finalement c'est arrivé au bon moment.
Donc, tu donnes énormément de façon très généreuse, puisqu'il y a des heures et des heures et des heures de contenu qui sont accessibles grâce à tout ton travail. Comment tu fais pour en vivre? Comment tu fais pour faire face à la peur du manque? C'est bien joli d'en donner gratuitement, mais comment... Enfin, voilà, le business model derrière, tu peux nous en toucher un mot?
Il n'y a pas vraiment de business model parce que ce n'est pas un terme qui me va ou qui me parle ou quoi que ce soit. Mais là aussi, ça s'est fait au fur et à mesure. Déjà, j'ai eu la chance d'avoir des merveilleux volontaires comme toi au début qui ont pu aider, organiser les traductions et plein d'autres choses pour permettre ça. Ensuite, après, au fur et à mesure, ça s'est professionnalisé où j'ai pu faire des conférences. Donc, les gens, tout au début, c'était des boutons de donation. Ensuite, ça a été des conférences quand je suis revenue des États-Unis où les gens venaient et puis voilà, savaient qu'ils permettaient aussi aux interviews d'être en ligne, etc. Et d'être partagés. Bah, après, j'ai été auteure aussi, donc ça aussi, ça aide. Et après, on a créé avec mon mari, mais ça, c'était il y a seulement 5 ans, la librairie de Lilou. Donc ça, c'est un site en ligne où il y a en effet mes ouvrages. Donc quand il y a un livre qui sort, je fais des dédicaces. Et j'ai les livres qui sont coup de cœur dessus, etc. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui a voulu faire du one-on-one, tu sais, ou des stages, ou enseigner et tout. C'est pas dans mon chemin de vie, je ne le sens pas. Mais c'est-à-dire que de fonctionner comme ça, en toute indépendance, tu vois, et choisir tout le temps les auteurs que je veux interviewer. Et ensuite, bah, si j'aime l'interview, le livre, etc., là, je le propose. Après, j'ai pas eu la chance de administrativement, je suis un peu une catastrophe, donc j'ai pas eu tout ce qui est YouTube et la pub YouTube, etc. J'en ai pas du tout bénéficié ou très peu, mais il y a 10 ans, genre 300 € ou autre par mois, ce qui m'a aidé dans certains cas. Mais voilà, c'est venu de d'autres sources. Et puis, j'ai eu beaucoup d'aide, hein, comme des personnes comme toi, comme je sais pas, pour partir en vacances, des maisons qui ont été offertes, des soins qui m'ont été offerts, des choses qui... La vie me l'a rendue de manière tellement, tellement abondante. Je suis abondante, je me reconnais comme abondante, j'ai fait un travail par rapport à ça. Il y a eu un défi par rapport à ça aussi, sur libérer son rapport à l'argent. À 32 ans, moi-même, je vivais un éveil par rapport à ça, et c'est ce qui m'a permis de réouvrir mon cœur. J'y suis retournée chez mes parents à 32 ans, sans argent. Et là, ça a été un énorme reset sur la vie, en fait. Je pense que tout ça n'aurait pas été possible sans passer par cette case départ à 32 ans. Enfin,
de tes livres et sur l'argent, c'est « Je n'ai pas d'argent et j'aime ça » et ça me plaît.
Alors, « Je n'ai pas d'argent et ça me plaît », c'était écrit au moment où, en effet, j'étais chez ma mère, de retour chez elle à 32 ans sans argent, et là où il y a l'éveil qui se passe, cette ouverture de cœur. Et après, il y a eu plus tard avec Christian Junot, qui est un ancien banquier et qui a écrit beaucoup, enfin, qui avait écrit un livre sur sa relation à l'argent, où on a créé ensemble le défi des 100 jours pour libérer son rapport à l'argent et vivre dans l'abondance. Et qui est d'ailleurs épuisé, il n'est plus là, et je suis en train de le retravailler justement en ce moment, on est en train de le retravailler pour qu'il puisse ressortir l'année prochaine, parce que je pense que pas mal de personnes en auront besoin, tout ce qui se passe.
Yes, trop bien. Un petit mot sur tous les livres que tu as publiés, est-ce que tu as tous les titres en tête ? Je trouve que juste les titres des livres, ça donne déjà un bel aperçu de tout ton cheminement personnel.
Il y a la collection « Et ça me plaît ». Donc, c'est « J'ai perdu mon job et ça me plaît ». Ça, c'était 2009. « J'ai pas d'argent et ça me plaît ».« J'ai pas de religion et ça me plaît ».« Je suis célibataire et ça me plaît ». Et « J'ai dit oui et ça me plaît ». Et « Je suis enceinte et ça me plaît ». J'ai arrêté là la collection et... Il défilait son jour avec tous les différents titres. Et puis, dernièrement, des livres pour enfants, parce que l'histoire est venue quand j'étais enceinte. Avant de savoir, 2 jours avant même de savoir que j'étais enceinte, il y a une histoire d'une petite icône qui est venue à moi. Là aussi, j'ai écrit, c'était pas du tout prévu au programme, mais elle s'est écrite.
Donc, on pourra bientôt lire aussi.
Eh ben, elles sont déjà sorties. Il y a la deuxième, l'année dernière est sortie le premier volume, et là est sorti le deuxième volume à la recherche de l'arc-en-ciel.
Okay. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de rajouter pour nos co-créatrices, nos éditrices, enfin, qui nous regardent, qui regardent cette interview, qui sont en général des femmes qui ont une envie d'entreprendre quelque chose et voilà, qui sont dans cette phase parfois d'hésiter, où elles ont un peu démarré, mais...
Eh bien, on est toutes différentes, toutes uniques. Et à un moment, on trouve notre style. Moi, j'ai toujours travaillé de la maison. Ce n'était pas quelque chose qui se faisait. Et faut vraiment s'écouter et écouter là où on se sent bien et se faire bien entourer et oser. Moi, je peux que ben, je peux que encourager d'aller vers l'entrepreneuriat, même s'il y a des risques, même s'il y a des moments où c'est plus dur, etc. Si on est passionné et qu'on aime ça, qu'on sent que c'est pour nous, bien sûr. De toute façon, il n'y a aucune expérience qui est un échec. Au final, on le sait, c'est que des expériences qui, après, vous serviront sur votre mission de vie donc, et pour faire d'autres choses. Donc, c'est à faire. Surtout maintenant, je trouve que c'est encore plus facile avec ce système d'auto-entrepreneuriat, etc. Donc, c'est encore différent que de créer une société. Et c'est bien de se lancer, ça fait du bien, ça fait du bien d'aller au bout. Moi, j'ai décidé, pour la librairie de Lilou, en tous les cas, c'était une évidence pour nous de le créer en couple. À mon avis, il y a beaucoup de personnes aussi qui se retrouvent en couple pour démarrer, pour être justement pouvoir exprimer leur mission de vie, vraiment quelque chose de profond qu'ils ont envie de partager avec le monde. Et c'est vrai qu'à deux, même si c'est challengeant beaucoup de fois, bah c'est quand même très stimulant et c'est fort. On se sent vraiment porté. Donc voilà, chaque personne va entreprendre différemment et on l'a peut-être mal compris, ce mot entreprendre, et est-ce que c'est un patron et machin et truc, alors que c'est pas forcément ça, quoi. Il y a plein de façons de le faire. Plein de façons de le faire et moi, j'aime cette indépendance, j'aime cette liberté aussi. Et j'aurais du mal à fonctionner différemment. Donc,
Elle te va bien, en tout cas. Et, enfin, moi, je te verrais pas travailler d'une autre façon aussi. et en tout cas, tu donnes beaucoup d'outils. Enfin, tu as vraiment toute une boîte à outils dans tout ce que tu publies, que ce soit des livres, des vidéos, qui peuvent aider chacun à trouver sa voie, trouver son individualité, débloquer les trucs qui font que ça peut bloquer un certain moment.
Donc, ouais. La mission de vie est bien pour ça. Le défi des 100 jours pour trouver sa mission de vie, je trouve que quand on cherche comme ça à donner du sens et à démarrer même dans l'entrepreneuriat, c'est pas mal.
Merci Lilou, merci d'être venue.
Paul, Lucie, un plaisir.
À bientôt.
À bientôt.